Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Radio Okapi, la radio de la paix. Ravi de vous retrouver pour votre grand rendez-vous d'information de 18h dans un instant, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Voici tout de suite les titres. Ebola gagne du terrain, riposte musclée en Ituri. Avec l'appui de l'UNICEF, des équipements médicaux déployés à Bunia pour freiner la propagation du virus. Assemblée nationale, Mbosso recule sous la pression après des propos jugés sexistes visant une députée. Le vice-président présente ses excuses, ravivant le débat sur le respect des femmes en politique. Kindu face au cru, une mobilisation pour éviter le pire. Entre inondations à répétition et vulnérabilité des populations, une dynamique collective s'organise pour renforcer la prévention et la résilience. Avec nous en fin de journal, Blaise Bilembo de l'Union pour la promotion et la défense des droits humains et de l'environnement. En Ituri, la riposte contre Ebola passe à la vitesse supérieure. Bienvenue à tous. Voici l'essentiel de l'actualité. Face à la progression inquiétante de l'épidémie en Ituri, les partenaires sanitaires passent à la vitesse supérieure. Un important lot de matériels médicaux et d'équipements de prévention a été réceptionné mardi à l'aéroport de Bunia avec l'appui de l'UNICEF. Objectif, renforcer en urgence la prise en charge et freiner la propagation du virus. Les détails avec Jean-Claude Lokidile.
L'UNICEF a réceptionné mardi à l'aéroport de Bunia un nouveau convoi de matériel destiné à soutenir la riposte contre l'épidémie d'Ebola déclarée la semaine dernière en Ituri. Selon Ella Skiri, chef de bureau de cette agence onusienne basée à Bunia, ce lot de 16 tonnes contient essentiellement des équipements de prévention et de contrôle des infections destinés aux structures sanitaires. Ce matériel sera réparti selon les besoins dans les trois zones de santé actuellement touchées par l'épidémie, notamment Bunia, Rwampara et Mongwalu, en collaboration avec la Division provinciale de la santé et le Centre des opérations d'urgence de santé publique. L'UNICEF réaffirme également son engagement à accompagner les autorités congolaises durant toute la période de la riposte. Ella Skiri, chef des bureaux de l'UNICEF à Bunia.
Nous, UNICEF, quelle que soit l'évolution de la situation, nous restons proches de nos partenaires, du gouvernement provincial et de la division technique et de ses partenaires pour pouvoir accompagner la réponse. On est là jusqu'à ce qu'on fasse fin à cette épidémie et qu'on dise que l'épidémie est déclarée vaincue.
Ce renforcement logistique intervient dans un contexte de forte mobilisation des autorités et de partenaires qui espèrent contenir rapidement la propagation du virus dans les zones déjà touchées. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Mais sur le terrain, la vigilance peine à suivre. À Beni, au Nord Kivu, les mesures de protection contre Ebola sont largement ignorées dans plusieurs parkings, dans le bus, sur les motos et dans les autres transports en commun. L'entassement reste la règle. Reportage de Marc Marofimbo.
Au parking situé au Ropo Nyamwisi, dans la ville de Beni, où au moins 5 agences de voyage embarquent des passagers vers différentes destinations, l'entassement est toujours observable. Le nombre de passagers portant des cache-nez reste très faible. Aucun dispositif de lavage de mains n'est installé sur place. Les responsables de ces parkings dénoncent des décisions prises sans accompagnement de la part des autorités. L'un d'eux explique. Le maire de la ville nous exige de transporter 4 personnes dans la voiture. On se pose la question de savoir si on transporte 4 personnes, chaque passager payera combien. Lui prend des mesures sans tenir compte de la réalité de notre travail. Pour lui, la taxe de la mairie à payer à ma vie suffit, sans tenir compte des multitudes de taxes qui sont là devant. Voilà qu'il a envoyé des policiers pour traquer les véhicules qui ont transporté plus de 4 personnes. Aucune mesure d'accompagnement dans le sens d'allègement des taxes pour combler les vides de paiement. On nous exige de transporter seulement 4 personnes. Par rapport à quoi ? De son côté, le maire de la ville de Beni a déployé depuis mercredi des éléments de la police aux 4 principales barrières d'entrée et de sortie de la ville. Objectif, faire respecter le nombre de passagers autorisés dans les véhicules de transport en commun. Mais sur le terrain, cette mesure peine encore à être appliquée. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Pendant ce temps, l'inquiétude gagne du terrain. Au sud Kivu, un cas suspect de fièvre hémorragique Ebola a été signalé depuis hier dans la zone de santé de Miti-Muresa, à une vingtaine de kilomètres au nord de Bukavu, dans les territoires de Kabare. Selon la division provinciale de la santé, le patient qui présentait des symptômes compatibles avec Ebola est décédé le même jour. Un échantillon a été envoyé à Goma pour des analyses afin de confirmer ou infirmer cette suspicion. Le docteur Crispin Moutouedou, médecin épidémiologique en charge de la riposte, livre plus de précisions au micro de Jean Kassami.
Il s'agit d'un monsieur d'autour d'une vingtaine d'années, venu d'Ituri avec sa femme et son petit frère. Le monsieur a présenté des signes. Il a d'abord été soigné chez un privé. Après, le tradit praticien l'a envoyé au centre santé. À partir du centre santé, vu les signes que le malade présentait, ils ont été obligés de l'envoyer à l'hôpital de Luiho, où l'homme est décédé, avec des saignements, la fièvre et tout ça. Les équipes d'intervention rapide ont fait le terrain pour aller vérifier. Ils ont trouvé que l'homme était déjà décédé. Ils ont conclu à un cas probable, effectivement, et ils ont fait les prélèvements. Entre-temps, hier, il y a eu l'enterrement digne et sécurisé les décès. La femme du monsieur qui est décédé et le petit frère du monsieur, il paraît qu'ils ont commencé à présenter aussi des signes de fièvre, de céphalée. Et c'est comme ça qu'eux aussi ont été investigués et validés. Les échantillons sont rentrés hier tard le soir à Bukavu et acheminés à Goma, à l'INRB, pour des examens plus approfondis. 4 échantillons sont partis. Et donc, nous restons aux aguets.
Dans l'actualité politique, la tension retombe, mais la polémique reste bien vive. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, fait marche arrière. Après une vague d'indignation dans l'opinion et la classe politique, il a retiré ce mercredi ses propos tenus le 15 mai en plénière et présenté ses excuses en cause des déclarations sur le physique de la députée Micheline Mpundu, accompagnée de gestes jugés. J'ai déplacé une séquence qui ravive le débat sur le sexisme et le respect des femmes dans les institutions publiques. Pour plusieurs défenseurs de droits des femmes, ces rétro-pédalages sonnent comme une première victoire contre la banalisation de violences verbales. Retour sur cette affaire avec Élisée Chikota.
Tout est parti d'une séquence vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Lors de la plénière du 15 mai à l'Assemblée nationale, Christophe Mboso avait publiquement commenté la beauté et le physique de la députée nationale Micheline Pundulundemba, allant jusqu'à accompagner ses propos de gestes visant à illustrer les formes de l'élu après son intervention. Rapidement, la séquence a provoqué une vaste des réactions. Plusieurs voix ont dénoncé des propos sexistes dans une institution censée incarner le respect de la loi et de valeurs républicaines. Préoccupée, l'actrice politique Lydie Omanga estime que commenter les physiques d'une femme élue plutôt que son intervention politique envoie un mauvais signal aux femmes engagées dans la vie publique. Même indignation du côté de Bernadette Kamangou. Pour cette défenseure des droits de femmes, les propos de Christophe Mboso relèvent du harcèlement sexuel et contribuent à banaliser les violences basées sur le genre en RDC. Face à la polémique, Christophe Mboso a finalement retiré ses propos ce mercredi devant les députés. Un geste salué par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bouji Sangara, qui y voit une preuve de responsabilité et d'humilité institutionnelle. Pour plusieurs observateurs et militantes des droits de femmes, ce recul du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale constitue surtout une victoire symbolique contre les discours sexistes dans l'espace public congolais. Mais cette affaire relance également les débats sur les violences verbales visant les femmes engagées en politique et sur la nécessité pour les dirigeants de mieux maîtriser leurs discours et comportements dans les institutions de la République.
Au Nord Kivu, l'heure est à la reconstruction. Une cinquantaine des femmes et des jeunes filles victimes d'abus et d'exploitation sexuelle impliquant certains membres du personnel des Nations Unies entament un processus de réinsertion socio-économique porté par la MONUSCO et mis en œuvre par la Fondation Biester. Ce programme vise à leur donner autonomie et espoir sur le plan économique et psychosocial. Depuis le 20 mai à Goma, elles prennent part à un atelier de lancement de 5 jours. Les détails avec Bernard Danyangi.
Originaire de Gomagne, Ragongo Isake, ses bénéficiaires ont été sélectionnés parmi les victimes de ces violations. Elles vont recevoir à travers ce projet un accompagnement multidimensionnel avec objectif d'atténuer autant que possible les préjudices subis, explique Zaina Mignone de la Fondation Biester.
Nous avons toute une équipe de psychologues qui vont prendre en charge leur santé mentale. Il y aura aussi un montant pour la réinsertion économique et continuité des agères qu'elles vont créer. Il y aura aussi 150 dépendants qui vont bénéficier du projet parce qu'il y aura une prise en charge sanitaire de dépendants, des bénéficiaires.
Ce projet entend aussi soutenir ces femmes fortement affectées par la dégradation de la situation sécuritaire en 2025, précise Deborah Barugara de la section conduite et discipline de la MONUSCO à Goma.
Avant, il y a eu des projets de formation en métier qu'elles ont subi, elles ont reçu des kits. Mais malheureusement, avec la situation de la guerre, elles ont tout perdu. Alors notre objectif est qu'elles se relèvent un peu socio-économiquement. Elles seront regroupées en groupe de solidarité. Elles auront une caisse commune.
Cet atelier de lancement permettra aux participantes de mieux comprendre les objectifs et les mécanismes de ce projet dont la durée est fixée, environ 6 mois.
À l'international, vive émotion et mobilisation diplomatique après le drame de Dublin. Le gouvernement congolais suit de près l'affaire de la mort d'Yves Sakila, un ressortissant congolais tué le 16 mai dernier à Dublin, en Irlande, dans un incident impliquant des agents de sécurité privée. Dans un communiqué publié mardi, le ministère des Affaires étrangères s'est dit profondément préoccupé et assure qu'un suivi rapproché du dossier est en cours, en coordination avec les autorités irlandaises. Les précisions avec Alain Hirung.
Le communiqué précise que des démarches diplomatiques et consulaires appropriées ont été engagées afin d'établir les circonstances exactes du décès, de s'assurer qu'une enquête indépendante, transparente et diligente soit menée, de garantir le respect des droits de la victime ainsi que l'accompagnement nécessaire à la famille. Le ministre délégué dit prendre acte des réactions suscitées par cette affaire au sein de l'opinion publique et des organisations de défense des droits humains. Il appelle néanmoins à la retenue, au calme et à la responsabilité dans l'attente des conclusions officielles des enquêtes en cours. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dit demeurer particulièrement attaché à la protection de ses ressortissants vivant à l'étranger, à la sauvegarde de leur dignité, ainsi qu'au respect des droits humains et des principes de justice. Le cabinet du ministre délégué continuera à suivre ce dossier avec la plus grande attention et tiendra l'opinion nationale informée de toute évolution significative, conclut le communiqué.
Et puis à Kinshasa, la galère des conducteurs de moto-taxi depuis l'interdiction d'accès à Kintambo magasin. Les conducteurs de moto-taxi dénoncent un véritable parcours du combattant. Chaque matin, la circulation vire au cauchemar avec d'importants embouteillages sur l'axe pompage Sola-DGC. Une situation qui complique davantage le quotidien des usagers et des conducteurs. Reportage de Jérémy Baraka.
Les motards sont désormais obligés de s'arrêter soit au rond-point Chamkwale, soit avant l'hôtel Malebo. Cette situation entraîne une forte concentration des passagers et des véhicules dans ces zones. Ils appellent les autorités à mettre en place des solutions adaptées pour atténuer les difficultés rencontrées sur le terrain. Plusieurs d'entre eux dénoncent également des tracasseries dont ils seraient victimes de la part des services de sécurité.
Nous avons vu qu'il y a un colonel qui vient de Kanchach, de la Grande Républicaine. En tout moment, il récupère les motos pour amener ça au Kanchach au lieu de passer des magasins.
Lorsqu'on nous intercale pour ne pas arriver à magasin, c'est bien sûr, mais il faut chercher pour nous une autre place.
Les clients interrogés à ce sujet dénoncent et aussi la hausse des prix des transports depuis l'application de cette mesure.
Je viens des pompages pour venir ici. On m'a demandé de payer 4 500. Auparavant, on payait 2 500.
Selon des sources concordantes, cette interdiction s'inscrit dans le cadre de mesures visant à limiter l'accès des motos au centre-ville de Kinshasa. En attendant d'éventuels aménagements ou mesures d'accompagnement, les passants continuent de subir les conséquences de cette nouvelle organisation de la circulation.
Actualité internationale.
Tension persistante entre Washington et Téhéran. Le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, est arrivé ce jeudi à Téhéran pour relancer les discussions entre les États-Unis et l'Iran dans un contexte toujours incertain. Cette visite s'inscrit dans une série d'initiatives diplomatiques menées par le Pakistan qui joue un rôle de médiateur actif dans ces dossiers sensibles. De son côté, Donald Trump provient. La situation reste sur le fil entre une possible désescalade et un retour aux hostilités. Ce dernier jour, Islamabad a multiplié les démarches, notamment avec deux visites en Iran du ministre de l'Intérieur, porteur d'une nouvelle proposition américaine actuellement examinée par Téhéran. Mais l'Iran reste ferme. Lever des sanctions, dégel des avoirs à l'étranger et fin du blocus restent des conditions non négociables, tout en affirmant ne pas céder à la pression.
L'invité.
Face aux inondations fluviales à répétition dans la ville de Kindu, Maniema, les alertes se multiplient. Pour mieux comprendre le phénomène et proposer les solutions, l'Union pour la promotion, la défense de droits humains et de l'environnement a réuni récemment plusieurs acteurs autour de cette problématique. À l'issue de ces échanges, une note de plaidoyer a été élaborée pour renforcer la prévention et la gestion des risques. Pour en parler avec nous, Blaise Bilembo, chargé de réduction de risque de catastrophe au sein de l'Union pour la promotion, la défense de droits humains et de l'environnement, répond aux questions de Florence Kizalunga. Suivez.
Bilembo Malonga Blaise, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste.
Que retenir de cette analyse que vous venez de faire par rapport à cette problématique des inondations fluviales dans la ville de Kindu?
Merci. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que l'analyse nous a fait découvrir d'abord la situation de Kindu, l'historique nous a montré qu'il y a eu l'inondation en 1960, à partir de 1997, que nous avons commencé à voir les manifestations des inondations, qui est d'abord fluviale. Cela a commencé à s'aggraver à partir de 2004, 2005, mais à partir de 2016, 2017, 2020, que ça a commencé à être année par année. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons découvert qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont à la fois la cause de toutes ces inondations-là. Nous avons découvert, par exemple, qu'il y a d'abord la mauvaise urbanisation, l'urbanisation qui n'est pas planifiée et que cela aggrave la situation. Il y a aussi la mauvaise gestion des ordures qui est aussi l'une des causes. Il y a des ordures qui sont jetées, il n'y a pas d'entretien, il y a toute une série de problèmes que nous avons retenus sur ça.
Votre souci est d'apporter une réponse à cette crise. À l'issue de votre atelier, vous avez pu élaborer une note de plaidoyer que vous avez adressée à tous les niveaux. Peut-on savoir ce qui est contenu dans cette note de plaidoyer?
Oui, nous avons les soucis de vraiment de répondre à tous ces problèmes, parce que vous savez, les inondations, il y a des impacts sociaux qui sont accompagnés. Il y a des pertes des maisons, il y a des maladies, et que ça vient, comme la population dit, ça devient de l'année à l'année. Donc toutes les années, maintenant, ça devient un problème récurrent. Maintenant, la note a été rédigée, et ce qui est contenu dans la note, d'abord, nous avons montré les contextes. La participation a montré les contextes de Kindu, comment la ville elle est traversée par les fleuves Congo, et comment elle est aujourd'hui exposée par les inondations. Il y a aussi les demandes. D'abord, il y a eu des demandes qui sont en urgence. C'est d'abord trouver une solution à la population qui est dans les zones inondables. Que l'État ou le gouvernement puisse trouver une solution durable, parce qu'il y a des ceux-là qui disent que non, nous voudrions même quitter ici, mais on n'a pas où aller. Donc c'était une demande. Et cela aussi est accompagné par, dans les demandes, la gestion durable des déchets, des ordures. Il y a les inondations pluviales qui aussi est un problème, parce que parfois quand il pleut, les caniveaux sont bouchés, les rivières sont remplis par des déchets. Si les déchets ne sont pas bien gérés, ça cause aussi des problèmes. Et dans cette note, il y a des recommandations. On a recommandé à des différents niveaux, au gouvernement, on a recommandé de trouver, par exemple, un nouvel arrêté, les nouveaux lotissements dans toutes les trois communes, parce que c'est toutes les trois communes qui sont touchées. Il faut qu'il y ait des lotissements pour cette communauté-là, qui soient relogés là-bas, parce qu'ils sont dans des zones à risque. Il faudrait aussi, parce qu'il y a eu des cacophonies, il y a des confusions entre les services cadastraux en général, communale, donc cadastre, urbanisme et titres immobiliers, avec la municipalité, donc la ville. Et par moment, ils sont dans des confusions. On a recommandé qu'il y ait quand même qu'on puisse séparer les mandats des chefs de quartier, les mandats des cadastres, on ne sait pas qui, parce qu'on donne illégalement les terres. Celui qui n'en a pas la compétence, il peut donner la terre, ne sachant même pas les dangers que cette personne peut recourir là demain.
Si vous avouez qu'il y a certains qui sont fatigués par cette situation, mais par contre, il y a d'autres qui persistent toujours, même s'il y a inondation, ils sont assistés et ils retombent encore dans cette même situation. Alors, il y a dans votre projet, est-ce que vous avez aussi le temps de sensibiliser la communauté, de montrer les dangers qui présentent ou les dangers qui sont en train de vivre tous les jours?
Oui, oui, en ce moment ici, il y a des équipes qui sont sur terrain. Nous sommes en train de sensibiliser la communauté et beaucoup, même parfois, bon, je me dis, il y a des gens qui perdent beaucoup de choses, des maisons, alors que l'assistance ne vient pas pour construire la maison. Donc, c'est une question de sensibiliser. On a compris aussi, il y a parfois l'ignorance de la part de la communauté, de la part des autorités parfois. Donc, nous sensibilisons. Beaucoup sont déjà d'accord. Ils disent que non, nous attendons seulement les décisions du gouvernement. On sera d'accord d'aller dans les lieux sécurisés.
Que peut attendre la population à l'issue de votre projet ici par rapport à cette question des inondations fluviales dans la ville de Kindu?
Les communautés doivent attendre que leurs doléances seront présentées à toutes les couches qui sont intéressées et nous espérons qu'une réponse sera venue favorablement à toutes ces doléances-là.
Bilimbo Malonga Blaise, merci.
Merci beaucoup.
C'était notre invité Blaise Bilimbo, chargé de réduction de risque de catastrophe à l'Union pour la promotion, la défense des droits humains et de l'environnement, qui répondait aux questions de Florence Kizalunga. C'est ici que s'achève votre grande édition des 18h sur Radio Okapi, la radio de la paix. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal en podcast sur www.radiookapi.net et sur toutes nos plateformes numériques. À la présentation, Gisèle Cage, supervision éditoriale Alain Rung, coordination Élisée Chikota, réalisation technique Dieudonné Nyangassa. Très belle soirée à toutes et à tous et restez branchés sur Radio Okapi.